Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé bien-être du lundi au vendredi de 15h à 16h. Comme tous les jours, il est fidèle au poste, c'est notre docteur d'Europe 1, le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie, bonjour à tous.
On a beaucoup de chance de vous avoir quand même.
Je le sais.
On est lundi, j'ai envie d'être gentil, on commence bien la semaine.
Ça commence très bien.
Ouais, vous avez vu ? Allez, c'est parti. C'est les fêtes qui approchent, ça fait cet effet-là. Au sommaire aujourd'hui, pour bien démarrer la semaine, notre grand dossier du jour sera consacré à l'hypnose médicale. Rien à voir avec de la magie ou du spectacle. Aujourd'hui, cette technique a fait ses preuves dans plusieurs indications, que ce soit chez le dentiste, pendant la grossesse pour soulager les nausées par exemple, ou même dans le traitement des douleurs chroniques. Pour parler des bénéfices de l'hypnose et de comment tout ça se pratique, nous recevrons le professeur Vianney Descroix. Il est chef de service de chirurgie dentaire à la Pitié-Salpêtrière, praticien en hypnose et membre du conseil scientifique de l'Institut français d'hypnose. Ensuite, dans notre chronique, les bobos du quotidien, on fera des travaux pratiques cet après-midi avec Benjamin Lévesque qui viendra faire un point sur les préservatifs féminin. Et oui, vous entendrez, il nous fera même une démonstration parce que finalement, peu de gens savent vraiment comment ce dispositif fonctionne. Enfin, vers 15h50, nous retrouverons comme tous les jours Catherine Blanc et sa chronique sexo. Aujourd'hui, elle répondra à une femme qui s'interroge sur ce qu'elle doit dire ou pas à ses enfants concernant sa séparation avec leur papa.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
Tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, c'est le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et donc on va démarrer avec cette question de Maëlys.
Bonjour Mélanie, bonjour docteur Mohamed. Voilà, il me semble que le docteur Mohamed a parlé il y a quelques jours du miel, comme d'un médicament, contre les rhumes et les rhinos et tout ça. Mais je voulais savoir, en fait, c'est en prévention en hiver ou en traitement pour les guérir ? Voilà, et à quelle dose il faut le consommer ? Voilà. Je vous remercie beaucoup, bon après-midi.
Le docteur Abeille, le docteur Jimmy Mohamed, effectivement. Est-ce que le miel, bon alors c'est pas un aliment magique non plus, mais il a de nombreuses propriétés, expliquez-nous.
Oui, il faut qu'on fasse une distinction entre des médicaments qui pourraient être bons pour notre santé, des aliments qui pourraient nous aider et certaines choses qui seraient peut-être pas très efficaces. Donc on n'est pas là pour faire la promotion de traitements miracles. Évidemment qu'avec le miel, vous n'allez pas guérir de toutes les maladies. Mais néanmoins, c'est peut-être un peu sous-coté le miel et peut-être qu'on n'en utilise pas assez puisqu'on sait que ça a des vertus anti-inflammatoires, antioxydantes. Ça réduit ce qu'on appelle les radicaux libres qui vont favoriser le vieillissement. Et ça aurait aussi un rôle antibactérien et surtout antiseptique. Et donc on pourrait utiliser pour des bobos du quotidien et essayer d'aller un petit peu mieux.
Alors la question porte sur ses éventuels bénéfices face à certaines viroses, certaines infections. D'abord, est-ce que ça pourrait être, comme le demande Maëlys, préventif en hiver?
Alors préventif, pourquoi pas, ça vous fait du bien, moi j'ai pas d'opposition, mais ce qu'on peut dire, c'est ce que les données de la science nous expliquent, et je vais vous parler d'une méta-analyse, c'est-à-dire un ensemble d'études. On a pris plein d'études, une quarantaine, qu'on a condensé, ça regroupe 1800 patients qui avaient des rhumes, des rhinos, des bronchites. Et on a comparé ces personnes-là en leur donnant un peu de miel, et un autre groupe, on leur a donné les traitements conventionnels, c'est-à-dire un sirop contre la toux, des antidouleurs, ou même, vous savez, des antihistaminiques, ce qu'on donne pour assécher les sécrétions. Et on a cherché à savoir si le miel faisait mieux que les traitements conventionnels. Eh bien oui, le miel fait mieux. Il réduit l'intensité et la fréquence de la toux. Et il permet aussi de réduire un peu le nombre de jours où on est malade. Ça veut donc dire qu'avec quelque chose de naturel, on peut avoir quelques bénéfices sans aucun effet secondaire, car c'est souvent là le problème des médicaments qu'on peut avoir en accès libre à la pharmacie.
D'accord. Et donc, si on est un peu grippé, un peu enrhumé, j'en prends à quelle dose, docteur cuisinier Jimmy?
Alors, dans les études, il n'y a pas de dose recommandée, ni de mode d'administration. Ça peut être sous forme de cuillère, dans du lait, dans du thé, avec
dans
une tisane.
Dans le lait chaud, c'est bon. Hein.
C'est bon, il n'y a pas de forme qui est supérieure à une autre. En revanche, ça vous coûtera moins cher, et je vous conseille d'acheter du miel plutôt français et bio, donc moins traité. Ça coûtera moins cher que les médicaments que vous allez acheter à la pharmacie sans ordonnance, qui, eux, peuvent avoir des effets secondaires, notamment neurologiques ou cardiaques. Vous savez, les Dolly machin truc, Acti machin, Rina machin, je ne donne pas les noms, car eux, on sait qu'ils peuvent avoir des effets secondaires. Donc le miel, ça ne mange pas de pain et surtout, c'est bon pour la santé.
Sauf pour les bébés, attention.
Moins d'un an, en raison du risque théorique de contamination à la toxine botulique, on évite ça chez les moins d'un an.
Merci beaucoup, Jimmy. On va passer à la deuxième question d'auditeur du jour. Cette fois, c'est Adèle qui nous a posé sa question. On l'écoute.
Oui, bonjour à tous. Alors, j'ai un fils de 6 ans qui fait encore pipi au lit assez souvent. Alors, je voulais savoir plusieurs choses. Déjà, est-ce qu'il y a des petits trucs que je peux apprendre pour qu'il arrête ? Est-ce que vous pensez aussi que ça peut être psychologique ? Et puis sinon, parce que c'est vrai que ça commence à 6 ans à m'inquiéter un petit peu, est-ce qu'il y a un médecin qui peut soigner ça ?
Jimmy, alors on a peu de temps, mais le pipi au lit à 6 ans, c'est pas normal, on est
non,
d'accord.
Non, on parle d'énurésie, c'est-à-dire de faire de pipi au lit et ça devient anormal à partir de 5 ans, car à 5 ans, 90% des enfants sont propres, notamment la nuit.
D'accord. Et donc ça peut arriver, bon, malgré tout, une fuite de temps en temps, c'est possible. À partir de quand on considère que c'est pathologique, à partir de 6 ans, 7 ans
Il y a deux formes d'énurésie. La forme primaire, c'est la plus fréquente, c'est-à-dire un enfant qui n'a jamais été propre. Là, à partir de 5-6 ans, il faut commencer à consulter. Et l'énurésie secondaire, ça veut dire un enfant qui était propre et qui tout d'un coup se met à faire pipi au lit de façon récurrente. Je ne vous parle pas d'un accident, je vous parle d'accidents répétés presque quotidiens. Et là, c'est qu'il y a peut-être un problème psychologique, une détresse, un facteur déclenchant qu'il faudra traiter et surtout consulter beaucoup plus rapidement.
Et alors on consulte qui ? Elle demande, c'est qui le docteur du pipi au lit ?
Alors dans un premier temps, le pédiatre ou le médecin traitant avec quelques règles de base. Ne pas trop boire le soir, aller leur faire pipi, leur donner une couche jetable et avec sur un petit calendrier, mettre les jours où la couche est sèche avec un petit soleil. Les jours où ils ont fait pipi, on met un petit nuage ou un parapluie. Et puis lorsque ça ne marche pas, on est adressé vers un spécialiste, un urologue, qui donne un traitement avec une hormone antidiurétique pour bloquer l'urine. On donne pendant 3 mois renouvelable une fois, ça diminue de 70% le nombre de nuits dans lesquelles on va faire pipi. Donc c'est un traitement qu'on peut proposer et donc on consulte après 6 ans.
Merci beaucoup Jimmy. Alors si vous aussi, comme Adèle qu'on vient d'entendre, vous voulez nous laisser vos questions santé et bien-être au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout n'hésitez pas.
Europe 1.
Dans un instant, place à notre invité pour le dossier du jour, c'est le professeur Vianney Descroix, chirurgien dentiste, mais aussi praticien en hypnose. Il va nous expliquer en quoi consiste l'hypnose médicale et surtout vous entendrez que les indications médicales sont nombreuses aujourd'hui en dentaire, durant la grossesse ou même pour venir au secours de douleurs chroniques. Cela peut être très utile. Restez bien avec nous sur Europe 1.
Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Très heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission Santé et Bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors c'est le moment d'accueillir en studio avec nous notre invité du jour. C'est vous, professeur Vianney Descroix. Bonjour.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy.
Vous êtes chef de service de chirurgie dentaire à la Pitié-Salpêtrière à Paris, praticien en hypnose et membre également donc, du conseil scientifique de l'Institut français d'hypnose. C'est quoi cet institut ? C'est un institut où on apprend la magie ?
Ah, c'est un très bel institut auquel je suis très attaché, qui a été créé maintenant il y a 30 ans par un psychologue qui s'appelle Didier Michaud, qui vit toujours, heureusement, en Normandie, et qui a été un des premiers à réintroduire l'hypnose médicale en France en créant son institut, l'Institut français d'hypnose, dans lequel on enseigne l'hypnose à tous les professionnels de la santé.
Alors, on ne va pas parler d'hypnose spectacle, mais dans quelles conditions l'hypnose médicale est validée ? Dans quoi est-ce qu'on sait que ça marche ?
Alors, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a des méta-analyses qui évaluent aussi l'intérêt de l'hypnose dans un certain nombre de pathologies. Et on peut dire qu'aujourd'hui, les données de la science sont formelles sur deux indications, les douleurs, aiguës au bloc opératoire par exemple, ou chroniques. Et puis une deuxième indication un peu moins connue qui est la colopathie fonctionnelle, le syndrome du côlon irritable, dans lequel on a des données extrêmement fournies et intéressantes qui montrent que l'hypnose est un bon moyen pour arriver à mettre fin à ces douleurs gastro-intestinales.
Professeur, vous disiez on est revenu depuis quelques années à l'hypnose médicale, notamment au sein de l'hôpital. Pourquoi ça veut dire qu'il y a, je ne sais pas, 50 ans, 60 ans, 100 ans peut-être, on l'utilisait déjà ?
Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que l'hypnose, on l'a oublié, mais c'est une méthode qui a été énormément développée en France avec deux grandes écoles. Une école de la Salpêtrière avec le neurologue Charcot et puis une école de Nancy avec Bernheim, avec Liébault. Donc l'hypnose à la fin du 19e siècle en France est très importante. On l'oublie un petit peu au début du 20e siècle et puis elle revient des États-Unis d'Amérique au début des années 1980, là où va être créé l'Institut français d'hypnose.
Donc vous êtes chirurgien dentiste et du coup l'hypnose, ça peut vraiment aider ceux qui ont peur de la roulette, justement. C'est un vrai
les gens
n'aiment
pas beaucoup les dentistes, ils ont tort parce que ce sont des gens formidables.
Non, c'est sûr qu'ils sont formidables. Et effectivement, l'hypnose dans un cabinet dentaire, pratiquée par le chirurgien dentiste ou par son assistante d'ailleurs, va aider dans deux indications principales, comme une sorte d'anxiolytique, où le chirurgien dentiste va proposer une séance d'hypnose pour diminuer l'anxiété du patient. Et puis, ça va être aussi utile à des fins antalgiques, c'est-à-dire qu'un patient qui est soigné pour ses dents, à qui on extrait des dents de sagesse grâce à l'hypnose, a moins besoin, par exemple, d'antalgiques en post-opératoire. Ça a été validé scientifiquement.
Mais vous l'endormez quand même quand vous devez extraire une dent. On ne fait pas que l'hypnose, il y a quand même un petit peu d'anesthésie, rassurez-nous.
C'est ça. Il y a toujours de l'anesthésie locale. À chaque fois que l'on parle d'intervention chirurgicale, que ce soit dans la bouche ou ailleurs, avec de l'hypnose, il y a systématiquement une anesthésie locale.
Et pour quelqu'un qui a très très peur de venir, alors si vous arrivez à le convaincre de venir déjà, une fois qu'il est sur le pas de la porte de votre cabinet, comment ça démarre cette séance d'hypnose ?
Ah, ça c'est une très bonne question. Effectivement, vous avez raison Mélanie, il faut aussi être juste par rapport aux indications d'hypnose. Les patients qui sont tellement phobiques C'est une maladie psychiatrique et généralement, ces patients-là, on ne les voit pas dans nos cabinets. Donc, il faut avoir un niveau d'anxiété qui soit quand même compatible avec des soins sous anesthésie locale. Et la technique de l'hypnose, elle commence dès la prise de rendez-vous. C'est-à-dire dans les cabinets où les praticiens ou les assistantes dentaires sont formés à l'hypnose, on sait que dès la prise de rendez-vous au téléphone, on va faire fonctionner le processus hypnotique à travers tout un travail de communication qui fait que on va être beaucoup plus à même à entendre la peur des gens et à y répondre avec, encore une fois, une méthode qui est purement au départ, une méthode de communication.
Vous n'êtes pas déjà en train d'essayer de me faire ça un peu? Je vous vois parler calmement. Hein. Jimmy, il essaye de nous hypnotiser, je
crois.
C'est
ça, tout est dans le rythme de la voix, l'intonation. Déjà, rien que ça, c'est un début d'hypnose.
Ouais, c'est ce qu'on appelle la communication paraverbale. C'est-à-dire comment on pose sa voix, comment sa voix va être adaptée aux attentes des gens. Et
mais
comment,
un dentiste qui a une voix de merde, enfin une voix pas terrible, il peut y arriver quand même.
Mais c'est pour ça que c'est long de se former à l'hypnose, parce que toute une partie de la formation va se jouer sur la façon de se comporter avec les gens, la façon de parler, comment poser sa voix, comment trouver sa voix de praticien d'hypnose, oui, bien sûr.
Et du coup, comment vous faites? J'ai des dents à enlever. Est-ce que vous allez me faire comme Mesmer? Je m'endors et puis j'ai l'impression d'être un petit oiseau et ça y est, ça passe.
Alors, historiquement, il faut faire attention quand on parle de Mesmer, parce que c'était le premier à avoir travaillé, encore une fois, au XVIIIe siècle avec le mesmérisme, le magnétisme animal. Et puis, l'homme de spectacle a repris un nom qui était bien connu pour les gens qui font de l'hypnose. Et la technique est un peu la même, c'est-à-dire qu'au départ, on va focaliser l'attention de la personne. Et c'est ce qu'on appelle la transe hypnotique, c'est-à-dire la focalisation, l'absorption de l'attention qui fait que la personne va tout d'un coup se sentir dans un état un peu différent. C'est pour ça qu'on dit que l'hypnose est un état de conscience un peu modifié. Les gens n'ont pas la même conscience qu'habituellement. Et puis une fois qu'ils sont dans cet état-là, on leur fait des suggestions. Et en fonction de ce dont on a besoin, on va faire des suggestions d'anxiolyse, on va faire des suggestions d'anesthésie.
Vous anesthésiez en quelque sorte son cerveau. Il y a un cerveau antalgique, on peut
exactement
dire ça.
Ouais. C'est-à-dire que la façon dont on va amener le patient et les suggestions qu'on va lui faire, eh bien le cerveau va lui-même synthétiser des molécules qui seront antalgiques ou anxiolytiques. Exactement.
Et ça peut marcher chez les enfants qui ont peur aussi du dentiste parfois.
Ah, ça marche super bien chez les enfants, parce qu'en fait, les enfants ont cette capacité naturellement de se dissocier, ce qu'on appelle nous la dissociation. C'est-à-dire qu'ils sont partis ailleurs, ils sont partis dans un match de football, ils sont partis jouer avec leur meilleur ami, ils sont partis faire un tour de poney tout seul pratiquement. Et donc une fois qu'on a cet état d'absorption comme ça, là, de concentration, les choses sont beaucoup plus faciles avec eux. Les enfants sont des très très bons sujets de l'hypnose.
Il n'y a pas un risque de rester bloqué en suspension, en hypnose? Vous nous réveillez après, on n'est pas endormi, c'est ça que je veux dire?
Non, parce que l'hypnose, malgré le nom qu'elle porte, n'est pas du sommeil. Donc on n'est pas non plus inconscient et on n'est pas endormi. C'est un état de conscience. Et comme on est conscient, si jamais il y avait un danger ou si jamais ça ne se passait pas comme prévu, on peut sortir, évidemment, quand on veut, de l'état d'hypnose.
Professeur Descroix, on va poursuivre cet entretien dans quelques minutes. Vous restez avec nous.
Sans rendez-vous, 15h-16h sur Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé, Bien-être, une émission sans rendez-vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Alors aujourd'hui, notre invité en studio avec nous, c'est le professeur Vianney Descroix. Vous êtes chef de service de chirurgie dentaire à la Pitié-Salpêtrière à Paris. Vous êtes également membre du conseil scientifique de l'Institut français d'hypnose. Alors on va parler maintenant des bénéfices de l'hypnose. On a fait les soins dentaires, mais maintenant on va parler des femmes enceintes, notamment au premier trimestre de la grossesse. C'est validé, je crois. Il y a des preuves scientifiques que ça fonctionne sur les petits tracas comme les nausées, par exemple.
Oui, c'est ça. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites maintenant, il y a une dizaine d'années, qui ont montré que les femmes enceintes qui étaient accompagnées par des sages-femmes dès le début de la grossesse, avec des séances d'hypnose, et puis après, elles apprennent l'hypnose elles-mêmes, ce qu'on appelle l'auto-hypnose, ça leur permet de réguler un petit peu ces sensations de nausée, de fatigue, enfin tous ces états un peu d'esprit un peu particuliers du premier trimestre de la grossesse grâce aux techniques hypnotiques.
Mais comment est-ce qu'elle fait ça? Puisque le problème des femmes, on les appelle parfois les vomisseuses, celles qui vomissent beaucoup. On a beau leur donner tous les traitements, ça ne marche pas. Alors comment l'hypnose peut marcher chez ces femmes? Parce que ça paraît un peu magique là, ce que vous décrivez.
Oui, alors l'hypnose est vraiment pas magique, et ça c'est une question intéressante, Jimmy, c'est de se dire que c'est pas parce qu'on pratique l'hypnose que ça va marcher à 100%, quelles que soient les indications, que ça soit chez le chirurgien-dentiste, pendant la grossesse ou dans les douleurs chroniques. Et on en reparlera peut-être, il y a des gens qui sont plus suggestibles que d'autres. Donc,
tout le monde peut être hypnotisé ou pas? Quelle part de la population peut l'être, en tout cas?
Alors,
si on l'a
sait
calculé,
qu'en moyenne, il y a 80% de la population qui est suggestible,
quand même.
Assez suggestible pour avoir des séances d'hypnose. Mais vous savez, c'est comme quand...
En préparant l'émission, je lui demandais, je lui dis, vous savez, en me parlant comme ça, est-ce que vous savez si moi je suis suggestible? Il a dit, oui, à fond, oui, j'en suis sûr.
Je n'ai aucun doute sur ce sujet-là.
Et Jimmy, vous moins, je crois. Mais... ça vous fait rire. Je lui ai parlé un tout petit peu. Je dis, moi, vous pensez que vous seriez capable ? Il fait oui, sans problème. Bon, en fait, 80% dont Mélanie
c'est
Gomez.
Ça, donc, dont Mélanie Gomez. Voilà. Peut-être que Mélanie Gomez fait partie des 10% extrêmement suggestibles chez qui il suffit juste de dire un mot pour que ça marche. Il n'y a même pas besoin d'avoir beaucoup de technique. Et puis, il y a 10% de gens chez qui ils ne sont pas très, très suggestibles. Donc, on ne va pas s'acharner à vouloir faire de l'hypnose avec eux. Et chez une femme enceinte, on va proposer ça, c'est-à-dire une séance d'hypnose où on va rentrer dans cet état hypnotique et puis on va faire une suggestion autour de la nausée, autour du vomissement, autour des sensations peut-être désagréables et de voir avec elle comment elle pourrait, son corps, hein, parce que la technique de l'hypnose, c'est vraiment une technique corporelle. Ça démontre en fait la force de l'esprit sur le corps, la force de la suggestion. Et chez ces femmes-là, un certain nombre de suggestions qu'on peut faire très simplement sur quelque chose de très fluide, de très naturel, de quelque chose du corps qui se fait du bien lui-même, eh bien, au bout d'une ou deux séances, elles peuvent réussir à réguler complètement leurs troubles gastro-intestinaux au cours de ce premier trimestre.
Et elles peuvent ensuite refaire les exercices à la maison, car les nausées, les vomissements, ça peut durer 3 mois. Est-ce qu'elles font des exercices elles-mêmes ensuite ?
C'est tout le principe de l'hypnose, en fait. L'hypnose, c'est une technique qui rend les gens autonomes, où les gens doivent devenir autonomes avec le processus hypnotique. Donc, on leur apprend, encore ce matin en consultation avec une patiente, je lui expliquais comment faire sa séance d'auto-hypnose. Je sors mon ordonnancier et je lui fais une prescription d'hypnose, 5 minutes par jour.
C'est important de faire l'ordonnance ?
C'est très important parce que c'est vraiment
c'est
lui
du soin
dire,
que vous lui
c'est
prescrivez.
Du soin. C'est,
ouais.
C'est exactement comme on donnerait un antibiotique ou un antalgique en disant vous le prenez 3 fois par jour.
Ah oui.
Là, c'est de la même façon. On sort l'ordonnancier, il y a marqué assistance publique des hôpitaux de Paris dessus et on dit une séance d'hypnose par jour minimum. Je m'assois dans mon fauteuil, je ferme les yeux, je me concentre sur ma respiration et je rentre tranquillement à l'intérieur de ma concentration pour faire ma séance d'hypnose.
On revient à cette histoire de nausée, parce que bon, c'est souvent quand même le trouble qui est très très gênant en début de grossesse. Une femme qui aurait ça, donc une fois qu'elle a été guidée par une sage-femme ou un médecin qui lui a expliqué comment faire et qui a fait peut-être les premières séances avec elle, elle va faire ça à quel moment de la journée, par exemple ? Parce que bon, les nausées, c'est physique, elles vont venir peut-être quand même tous les matins au réveil. Donc vous lui dites tous les jours, 10 minutes avant qu'elle arrive, parce qu'elles arrivent souvent à la même heure quand même, ces nausées.
C'est l'idée de le faire tous les jours, c'est-à-dire qu'on ne veut pas forcément guérir ces nausées, on veut les prévenir. Et donc, il va falloir qu'elle fasse ses séances, même en dehors des nausées surtout, et d'apprendre à son corps à ressentir, encore une fois, quelque chose qui est beaucoup moins désagréable, beaucoup plus agréable. Et l'idée, c'est qu'elle arrive dans la prévention des nausées, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus de nausées ni d'envie de vomissement.
Est-ce que l'hypnose peut accompagner les femmes durant la suite de la grossesse, au moment de l'accouchement ou au moment de la péridurale ? Souvent, c'est un moment un peu d'angoisse. Est-ce que là, ça peut
on a
les
peur
aider.
De la grosse piqûre comme on a peur du dentiste et de la roulette.
Et puis après, on aime beaucoup l'anesthésiste.
Après, on l'adore en général.
Il y a beaucoup d'anesthésistes ou il y a beaucoup d'infirmiers anesthésistes qui sont formés à l'hypnose parce que justement, l'hypnose va être une très très bonne indication pour éviter de ressentir l'aiguille, pour même éviter de voir l'aiguille arriver. Et les anesthésistes ou les IAD qui sont formés à cette technique hypnotique savent faire ce genre de soins en mettant la patiente dans un état hypnotique qui fait qu'elle ne ressent plus même la péridurale ou la piqûre. Donc vraiment, la deuxième grande indication de l'hypnose au cours de la grossesse, c'est l'accouchement. C'est comment à la fois se prévenir de tout le côté un petit peu anxiogène de ce moment-là de l'anesthésie, mais c'est aussi travailler sur les contractions, sur les douleurs des contractions, accompagner une femme
mais
qui est en train de...
Mais elles vont être en pleine conscience, elles vont quand même voir leur bébé arriver, parce que ça peut inquiéter un peu, on se dire je vais accoucher sous hypnose, je ne serai pas là, mais si, on est d'accord.
Parce qu'il faut se défaire de cette idée de l'hypnose où les gens sont complètement dissociés ailleurs. En fait, l'hypnose, ça peut se faire les yeux ouverts, ça peut se faire en entendant et en continuant à être particulièrement actif dans le processus de l'accouchement sans aucun problème. Et évidemment qu'elles verront leur bébé arriver et bien au contraire.
Je crois qu'il y a des preuves même des bénéfices de cette hypnose durant l'accouchement pour les suites, le postpartum, je crois.
Ouais. Parce qu'en fait, quand on fait de l'hypnose, on fait aussi ce qu'on appelle des suggestions post-hypnotiques, c'est-à-dire des suggestions qui vont prendre effet après l'hypnose. Et dans ces suggestions post-hypnotiques, on peut amener la patiente à avoir une cicatrisation plus rapide, à avoir un retour plus rapide à la normale, à pouvoir s'occuper de son bébé beaucoup plus vite. Et donc, ça se voit dans tous les processus d'intervention chirurgicale, en fait, où nos suggestions post-hypnotiques vont permettre un retour à la normale beaucoup plus rapide.
C'est passionnant, professeur Descroix. On va faire une courte pause. On continue bien sûr cet entretien dans quelques minutes.
Europe 1.
On revient très vite avec cette émission consacrée à l'hypnose médicale et vous allez voir dans quelques minutes que l'on peut également s'en servir désormais contre certaines douleurs chroniques dans plusieurs pathologies, syndrome du côlon irritable, fibromyalgie ou même l'hypnose, à sa place également en psychiatrie avec des résultats très intéressants sur les TOC notamment. On va vous détailler tout ça, à tout de suite sur Europe 1.
Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Vous êtes sur Europe 1 dans Sans Rendez-vous. Il nous accompagne cet après-midi, c'est le professeur Vianney Descroix. Vous êtes chef de service de chirurgie dentaire à la Pitié-Salpêtrière à Paris et également membre du conseil scientifique de l'Institut français d'hypnose. Notre sujet aujourd'hui, alors je l'ai dit juste avant, on va faire un focus à présent sur l'intérêt de l'hypnose dans les douleurs chroniques, par exemple dans le colon irritable, ça fonctionne très bien. Je crois que les preuves sont nombreuses dans cette pathologie.
Exactement, ça fait partie des deux indications dans lesquelles il n'y a plus aucun doute de l'efficacité de l'hypnose. Les résultats des travaux scientifiques sont publiés dans les plus grandes revues internationales et on voit très très bien que l'utilisation régulière, parce que là aussi il y a une question de régularité dans les exercices, eh bien, permettent d'augmenter le confort de ces femmes qui ont des troubles gastro-intestinaux relativement gênants.
Ça veut dire elles ont moins mal, elles ont moins de...
Elles ont moins de symptômes de cette colopathie, c'est-à-dire qu'effectivement il y a moins de douleurs, mais il y a aussi moins de problèmes de transit, il y a moins tous les inconvénients de cette colopathie. Elles ont une qualité de vie qui est vraiment améliorée par les processus et par la technique hypnotique.
Des bénéfices très concrets.
Et c'est intéressant parce qu'en plus, c'est des patients qui vont consommer beaucoup de médicaments, qui vont avoir beaucoup d'examens complémentaires à la recherche d'une maladie ou de quelque chose qui déclenche les douleurs. Or, si on peut les soulager, moi je dis très bien, est-ce que dans le même état d'esprit, la fibromyalgie pourrait être améliorée ou soulagée ou en tout cas accompagnée par l'hypnose ?
Alors, en fait, beaucoup de centres antidouleurs en France vont avoir des praticiens qui sont dédiés à des séances d'hypnose et la fibromyalgie va rentrer dans les grandes indications des séances d'hypnose qu'on peut proposer à ces femmes, soit pour travailler sur l'acceptation de cette pathologie, soit pour diminuer l'intensité des symptômes douloureux. En fait.
Et là, c'est pareil, c'est la même chose que pendant la grossesse dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que dans un premier temps, le praticien, alors que ce soit une sage-femme, une infirmière, un médecin, va former un petit peu le patient. Et ensuite, le but, c'est l'autonomisation du patient qui va se faire de l'auto-hypnose régulièrement, c'est ça ?
C'est exactement ça, parce que ces syndromes, ces symptômes sont des symptômes chroniques qui vont durer pendant des mois, voire des fois pendant des années. Et évidemment que les patients ne vont pas venir nous voir une fois par semaine pendant 4 ans. Donc très rapidement, dans les 8 à 10 séances qu'on va leur proposer avec nous, eh ben, on va être dans une technique de transmission de savoir et ils vont devoir s'entraîner régulièrement à pratiquer l'auto-hypnose tout seul.
Est-ce qu'on peut faire de l'hypnose en séance de groupe comme Mesmer qui va hypnotiser toute une salle, la moitié du Grand Rex
sans magie, mais en groupe quand même.
Voilà, mais est-ce que ça peut marcher en groupe? Est-ce qu'il y a un bénéfice d'ailleurs à faire ça?
Oui, tout à fait. C'est des groupes que l'on fait et qui ont vraiment des vertus thérapeutiques. D'abord parce qu'on est avec des échanges de patients qui peuvent entre eux déjà échanger un petit peu leur façon de voir les choses, de voir la pathologie chronique. Et on sait très bien que, et dans le colon irritable, ça a été très bien montré, on a plus d'efficacité avec des techniques de groupe qu'avec des techniques individuelles. Alors évidemment, ça intéresse tout le monde parce que l'hôpital va gagner aussi du temps.
J'allais dire, ça doit arranger tout le monde parce que comme ça, on en casse 10 en même temps.
Ben exactement.
Bon, ce n'est pas très Covid compatible en ce moment, mais bon.
Pour une même infirmière ou pour un même docteur qui va faire ses séances d'hypnose de groupe, on peut voir 10, 15 patients en même temps. Donc il y a un effet thérapeutique du groupe qu'on connaît bien. On gagne un peu d'argent et c'est économiquement tout à fait intéressant. Et les résultats montrent, encore une fois, que c'est plus efficace que les thérapies individuelles.
Mmh. Est-ce que les résultats, justement, ils montrent que chez des douloureux chroniques, même hors pathologie dont on vient de parler, parce que des douloureux chroniques, il y en a dans beaucoup de pathologies, est-ce que ça montre que ces patients qui pratiquent l'hypnose régulièrement, ils consomment vraiment moins de médicaments, moins d'antalgiques, moins d'antidouleurs, hein, c'est ça ?
Ah ben, ça fait partie des facteurs qu'on évalue, effectivement. On évalue des facteurs à la fois de qualité de vie, des facteurs émotionnels. On a un certain nombre de critères qui nous permettent de dire qu'une pathologie douloureuse chronique s'améliore. Et parmi elles, c'est évidemment, comme le disait Jimmy tout à l'heure, moins de consommation de médicaments antalgiques, moins de recours à des examens complémentaires, moins de plaintes fonctionnelles, comme on dit.
Et est-ce que l'hypnose peut marcher dès le début ou est-ce qu'on a besoin, comme notamment dans la kinésithérapie, de plusieurs séances avant d'avoir une vraie efficacité et de se sentir vraiment mieux?
Alors là, ça dépend un peu de la suggestibilité des gens. C'est-à-dire qu'il y a
chez
des patients...
moi, la douleur chronique, ça marchera très vite. La première séance, c'est réglé, j'ai plus mal. Mélanie... Chez vous, ça sera peut-être un peu plus long.
Mélanie a tout compris. Médicalement, scientifiquement, on sait qu'avec certaines personnes, en une à deux séances, ça paraît même pour nous un peu magique et miraculeux, mais les choses fonctionnent très bien parce que les gens sont tellement suggestibles que le peu de suggestions qu'on a fait a fonctionné. Et puis d'autres, en moyenne, hein, on connaît aussi ce genre de données, il faut entre 8 et 10 séances à quelqu'un, à la fois pour se saisir de la méthode, pour comprendre la suggestion, pour la vivre, et puis surtout pour apprendre la technique et pouvoir la reproduire.
Bon, si un jour j'ai mal quelque part, je viendrai vous voir.
Hein.
Il y a tout
plaisir.
Aussi un volet psychiatrique dans l'hypnose médicale, notamment, je crois que ça fonctionne très bien sur tout ce qui est TOC, trouble obsessionnel compulsif.
Là, ça permet aussi de discuter d'une chose, hein, c'est que si on parle de pathologie chronique eh bien, il faut d'abord faire de l'hypnose avec des gens qui connaissent la pathologie douloureuse chronique, le médecin, l'infirmière dans les centres antidouleurs. Et lorsque l'on parle de troubles psychiatriques, on s'adresse bien à des psychologues cliniciens.
Il y a des psychiatres qui sont formés aujourd'hui à l'hypnose.
Exactement, tout à fait. En fonction des méthodes qu'a appris le psychiatre ou le psychologue clinicien, eh bien, si l'hypnose fait partie de ces méthodes, il va pouvoir aider les gens qui sont atteints de troubles anxieux ou de troubles obsessionnels.
Quelqu'un qui aurait un TOC de lavage de mains, par exemple, de se laver 10 fois les mains par jour, vous allez quoi lui suggérer que finalement, une fois, ça suffit de se laver les mains par là ? Alors, en ce moment, plus c'est mieux, hein, mais on va dire en dehors du Covid, en tout cas.
La question, elle est très intéressante par rapport à qui consulter pour quelle pathologie. Et si je vais voir un psychologue parce que, effectivement, je ne supporte plus vérifier 25 fois que ma porte est fermée, eh bien, ce psychologue peut aussi nous dire je ne connais rien au TOC parce que ce n'est pas ma spécialité. Et que... Donc, là où il faut être extrêmement rigoureux et vigilant, c'est quand je vais demander une séance d'hypnose ou je vais demander de l'hypnose, je vais surtout demander à la personne est-ce que vous connaissez la pathologie dont je souffre. Et ce n'est pas parce que je suis rhumatologue et que je sais faire de l'hypnose que je suis un bon praticien qui sait traiter des TOC ou d'autres troubles psychiatriques. Et ce qui est vraiment essentiel là, parce qu'il n'y a pas de recette miracle ou magique, il y a surtout, j'ai affaire à un professionnel de santé qui connaît ma maladie. Et parce qu'il connaît ma maladie, l'hypnose qu'il va me proposer va être efficace.
Et là, alors juste quand même la question aussi importante, est-ce que c'est pris en charge l'hypnose médicale ?
Alors tout va dépendre qui fait l'hypnose, ouais. C'est-à-dire que les médecins généralistes ont parfois les moyens de faire rembourser, certaines mutuelles peuvent prendre en charge, mais effectivement, le plus souvent, ça ne sera pas pris en charge, à part par des mutuelles.
Merci beaucoup, professeur Descroix, d'être venu sur notre plateau pour cet éclairage passionnant sur l'hypnose médicale et les nombreuses indications dans lesquelles aujourd'hui c'est prouvé, elle peut être d'un grand secours. Je vous souhaite une bonne après-midi, de belles fêtes également. Merci encore, professeur.
Europe 1.
Dans un instant, notre chronique, les bobos du quotidien. Benjamin Lévesque va venir faire un point sur les préservatifs féminins. Quel est cet objet mystérieux ? Parce que oui, finalement, on ne va pas se mentir, mais peu de gens savent vraiment comment ce dispositif fonctionne. Lui, il sait, alors il a tout nous dire. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Votre émission santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h. Nous sommes très heureux de vous accompagner cet après-midi. Alors à présent, on va passer à notre séquence, les bobos du quotidien. Avec vous, Benjamin Lévesque. Il y a 3 semaines, Benjamin, vous nous aviez fait un topo sur les préservatifs masculins. Et donc aujourd'hui, vous allez tout naturellement, puisqu'il n'y a pas de... est égalitaire, voilà. On va parler des préservatifs féminins qui sont peu connus, eux, du grand public.
Et oui, pourtant, ils existent depuis plus de 20 ans, mais le préservatif féminin ou interne, hein, puisqu'il peut aussi se placer dans l'anus, eh bien, n'est pas disponible en grande surface ou dans les distributeurs. Il s'achète uniquement en pharmacie ou sur Internet. On en vend quand même à peu près 2 millions chaque année en France. Alors vous allez me dire, c'est énorme. Eh bien, c'est peu par rapport au modèle masculin qui, lui, est vendu à plus de 100 millions d'exemplaires chaque année.
Place aux travaux pratiques, Benjamin. Comment est-ce que ça se présente, ce préservatif
pratique, Jimmy, hein.
Alors, c'est une petite gaine...
Non, petite, on ne peut pas dire ça, Jimmy. Je ne suis pas d'accord.
En caoutchouc avec 2 anneaux qui sont souples à chacune des extrémités. Alors vous pouvez le placer plusieurs heures avant un rapport sexuel. Et pour le mettre, eh bien, on vous conseille de vous installer dans la position qui est pour vous le plus confortable. Ça peut être allongé, accroupi ou debout. Et donc il suffit en fait de pincer le plus petit des anneaux avec son pouce et son index. Mmh. Ensuite de l'insérer donc dans le vagin et de l'enfoncer le plus profondément possible. Voilà, comme ça.
Ah, c'est technique, hein, franchement.
Ouais. Je pense que je vais rester sur le masculin.
Et c'est plus pratique, c'est plus facile. Et puis, donc selon Jérôme André, le directeur d'HF Prévention, eh bien, le préservatif féminin présente un double avantage. On l'écoute.
C'est sans latex puisque c'est du nitrile. Donc là aussi, bah, pour les gens qui ont des allergies, donc c'est une vraie plus-value. Et puis, effectivement, quand il y a un problème donc, d'érection, bah, l'homme n'a pas besoin de mettre de préservatif. Et donc, il peut donc directement pénétrer la personne sans avoir donc besoin donc, de mettre de préservatif. Donc, il y a une réelle utilité à avoir un préservatif féminin.
Alors, le seul inconvénient, c'est son prix. Hein,
sa taille aussi, quand même. Parce que
pratiquement 10 euros la boîte de 3 préservatifs. On est bien loin du préservatif masculin à 15 centimes pour certains modèles.
Est-ce qu'on doit mettre du lubrifiant, Benjamin, avec tout ça ?
Oui, mais à base de silicone, idéalement. Ça peut aider pour mieux glisser et éviter une irritation des muqueuses. Si vous n'en avez pas, attention, pas de vaseline ou pas d'huile d'olive ou de noix, enfin ce qui vous reste dans votre cuisine.
Non, ça va.
Ça va détériorer la capote qui ne pourra plus assumer justement son rôle de protection, ce qui peut laisser passer des virus et des spermatozoïdes passer à travers.
Bah, j'ai appris qu'on pouvait le mettre du coup aussi dans l'anus, mais imaginons que ce préservatif se déchire pendant le rapport. et qu'on ne s'en soit pas rendu compte. D'ailleurs, je ne sais pas si on ne s'en rend pas compte, mais est-ce que c'est grave, c'est la panique, Benjamin ?
Alors, pas de panique, Jimmy, mais il y a quand même une petite urgence. D'abord, contre le risque d'une infection au VIH, il existe un traitement à prendre d'urgence, comme l'explique Aurélien Bocan, le président de l'association AIDE.
Il faut faire un recours à ce qu'on appelle le TPE, c'est le traitement post-exposition, qu'on peut utiliser en urgence efficace jusqu'à 48 heures après exposition potentielle au VIH, qu'on trouve à l'hôpital, ou dans les urgences, ou les CEGIT que j'évoquais tout à l'heure, qui sont les centres de dépistage gratuits et d'information. C'est un traitement qui est à prendre effectivement pendant quelques semaines. C'est 3 semaines, 3 à 4 semaines, donc c'est efficace hein, de toute façon. Si vous êtes, vous le prenez dans les 48 heures maximum après une exposition potentielle au VIH, il n'y a pas de risque.
Enfin, pour éviter une grossesse non désirée, eh bien la femme pourra prendre la pilule du lendemain. C'est un comprimé à prendre le plus tôt possible, dans les 72 heures après le rapport sexuel. Et cette pilule est gratuite, sans ordonnance et sans le consentement des parents. Et c'est délivré en pharmacie.
Merci beaucoup, Benjamin Lévesque, pour ces travaux pratiques. Jimmy,
vous êtes convaincu, Mélanie,
vous avez appris... Non, franchement, chacun fait comme il veut. La meilleure contraception, c'est celle qu'on choisit, hein, n'est-ce pas ?
Surtout qu'il est tout aussi efficace que le masculin.
C'est bien, merci beaucoup, Benjamin Lévesque. Europe 1. Dans un instant, la dernière partie de cette émission. Vous êtes avec nous jusqu'à 16h et restez surtout, car juste après, on se retrouve pour la chronique sexo de Catherine Blanc. Alors n'hésitez pas, bien sûr, il faut rester sur Europe 1.
Sans rendez-vous sur Europe 1.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h, toujours à mes côtés, bien sûr, le docteur Jimmy Mohamed. Et c'est Catherine Blanc qui fait son entrée dans ce studio. Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Aujourd'hui, Catherine, une question d'Amélie. Jimmy, elle est pour vous, celle-là, je vous laisse la lire.
J'ai découvert que mon mari me trompait depuis plusieurs mois avec une de ses collègues. Je viens de le quitter et pour le moment, j'ai la garde des enfants. Ils sont grands et posent beaucoup de questions sur le pourquoi de notre séparation. Dois-je leur parler de l'infidélité de leur père ?
Ouh.
C'est vrai que c'est une question délicate qui est délicate. Catherine, est-ce qu'il faut vraiment tout dire à ses enfants, en tout cas parler du motif de rupture ? Là, on parle d'infidélité, mais est-ce qu'il faudrait dire que papa et maman ne s'aiment plus ? Est-ce qu'il faut qu'on en parle aux enfants ?
Je crois qu'il faut faire attention parce que dans ce genre de situation, inévitablement, on est dans la grande frustration. Amélie, dans la frustration d'avoir été trompée, que ça entraîne la séparation. Donc elle est animée inévitablement de colère, de blessures, etc. Et le risque est de vouloir entendre dans les questionnements des enfants l'occasion de raconter sa propre frustration.
Attention, si ça reste le père de ses enfants, justement. Hein.
Bah bien sûr. Mmh. Donc dire ton papa a trompé maman avec sa collègue.
On n'a pas le droit de faire ça.
C'est surtout qu'il ne faut pas oublier que les enfants rencontreront la collègue, ce qui est très douloureux, encore une fois. C'est un sujet horrible pour une maman. Mais le but, c'est de séparer ce qui se joue entre les adultes, si douloureux soit-il, et ce qui est important pour les enfants, pour leur construction. Il n'est pas question d'auréoler de toutes les qualités le papa, de qualités qu'il n'a pas en tout cas, mais rentrer dans le sujet de leur faire prendre parti pour la maman en disant « voilà, ton papa n'est pas bien parce qu'il a trompé ». Tromper est un terme, c'est pas « il a aimé une autre femme », c'est « il a trompé », donc c'est une faute, par définition. Donc c'est indiquer que le père est fautif.
Lui apporter toute la faute de cette séparation aussi.
Bien sûr, parce que...
Et en général, on sait que dans une séparation, ok, il y a peut-être une infidélité là, mais c'est rarement que d'un côté, il y a tout souvent des torts des deux côtés, non ?
Il peut y avoir des torts des deux côtés, il peut y avoir une relation qui est défaillante de longue date. Alors, c'est pas pour autant qu'on va dire c'est à cause de l'épouse pour autant, mais on peut quand même se dire qu'il y a des possibilités qui s'ouvrent.
Ça ne regarde pas les enfants.
Et surtout, c'est la sexualité qui ne regarde pas les enfants. Et cet arbitrage-là n'est pas bien, parce que sinon, ça oblige les enfants eux-mêmes à avoir un devoir de fidélité à l'égard de leur mère. Or, il leur faudra plus tard être infidèle à leur mère pour aller aimer ailleurs.
Mais du coup, les enfants posent toujours tout un tas de questions. Et là, naturellement, ils vous demandent pourquoi est-ce que vous êtes séparés ? Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on répond ? Est-ce qu'il faut mentir ? Ou dire ça ne te regarde pas, mais balayer d'un revers de main de dire.
Non, ils ont le droit de poser des questions malgré tout.
Je crois qu'il faut pouvoir dire, et donc c'est pour les personnes trompées, c'est toujours douloureux, mais c'est de pouvoir dire que voilà, la relation de papa et maman est une relation qui a été formidable, plein d'amour, mais qui a trouvé son terme, et papa est tombé amoureux d'une autre femme. On ne parle pas de sexualité, on ne parle pas de tromperie.
C'est peut-être mieux si c'est le papa qui le dit d'ailleurs, non, tout ça, parce qu'après tout, c'est vrai qu'elle peut avoir de la rancune et le dire d'une façon.
Oui, mais les enfants, elle a la garde des enfants, donc les enfants sont surtout avec elle. Et puis, il faudrait que le père puisse le dire. Mais d'une certaine manière, elle craint aussi qu'il se serve la plus belle part du gâteau, d'une certaine manière, en se disant, en étant héros de l'histoire. Donc je crois qu'il faut pouvoir dire, bah voilà, papa, il aime une autre femme, il aime toujours ses enfants, mais il aime une autre femme.
Oui, il vous aimera toujours, c'est
voilà,
ça surtout.
Voilà, il vous aimera toujours. Et bien sûr, maman est un peu triste de cette situation, mais...
Mais ça va aller mieux.
Mais ça, voilà, et c'est simple. Voilà. Il faut décharger les enfants et du devoir de secourir la mère et du devoir de compenser la perte de l'amour paternel en étant les amoureux de maman pour compenser. Et il faut pas charger l'enfant d'un devoir d'arbitrage et de haine à l'égard de cette autre femme qui restera peut-être, mais qui participera au quotidien de leur vécu. Donc, il faut pas trop diriger les choses.
Alors, est-ce que ça dépend peut-être aussi de l'âge des enfants, de leur degré de compréhension? Est-ce qu'on peut être un peu plus, je vais pas dire honnête, mais avec de grands ados,
oui,
de 15, 16, 10 ans,
voilà,
est-ce qu'on peut parler
ouais.
plus facilement qu'un enfant de 3, 4 ans? Et on voit parfois des couples se séparer très tôt après la naissance d'un enfant, même au bout d'un ou deux ans. Est-ce qu'il faut être un peu plus honnête quand ils grandissent?
Quand ils grandissent, ils ont le recul, ils ont eux-mêmes eu des expériences amoureuses, ils ont eux-mêmes été trompés ou ont trompé. Quand je dis trompés ou été trompés...
C'est pas obligatoire non plus de
non,
tromper
mais ce,
ou de tromper.
Non, mais ce que je veux dire...
Là, on dirait que c'est normal.
Non, ce que je veux dire, c'est qu'ils ont connu des Bien termes sûr. De relations ouais. et qu'ils les aient subis ou qu'ils les aient provoqués. Donc, ils sont à même de comprendre qu'il puisse y avoir un terme au désir ou qu'il puisse y avoir un terme à l'amour. Auquel cas, ben, il faut le dire tout aussi simplement, sans rentrer dans les détails, c'est de dire, ben, tu l'as expérimenté toi-même avec Pierre-Paul Jacques, et bien il y a un moment où l'amour se tarit, et bien on a vécu des belles choses, on a fait des magnifiques enfants, et puis à un moment donné, ben, papa a eu besoin d'un ailleurs, et c'est douloureux pour moi, mais voilà, ça fait partie du chemin de vie. Et quand ils sont tout petits, évidemment qu'on ne rentre pas dans ce genre de détails, si on parle plus simplement de papa éventuellement qui aime une autre femme. Mais en tout cas, on ne rentre pas dans le détail de la sexualité qui n'a rien à voir, dans la compréhension de l'enfant qui n'a rien à jouer là-dedans. Mais c'est toujours plus douloureux pour les mamans parce que, de fait, plus l'enfant est petit, plus ça va être comme une réalité, une normalité. Et donc, l'autre compagne risque de rentrer très naturellement dans la vie de l'enfant et de son cœur, ce qui est toujours douloureux pour une maman qui a fabriqué ses petits bouts de chou.
Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils. Voilà, c'est la fin de cette émission. Tout de suite, place à Stéphane Bern et Mathieu Noël avec Historiquement Vôtre et moi. Je vous dis à demain.